Bienvenue sur le podcast de The Perflub. Aujourd'hui, on continue notre série sur la science derrière l'entraînement avec un autre principe qui est le principe de la spécificité. Donc, qu'est-ce que la spécificité de l'entraînement? C'est le degré auquel un exercice ou un entraînement en général est lié au sport lui-même. Donc, la spécificité est le cadre autour duquel tous les autres principes scientifiques sont construits. Il devrait guider le processus décisionnel pour toutes nos décisions d'entraînement, de la sélection des exercices au volume total et à l'intensité. Cela signifie que l'entraînement doit guider et développer les systèmes du sport en lui-même et les adaptations qui font qu'on a un entraînement qui est bénéfique au résultat du sport lui-même. Donc on va rentrer en détail dans tout ça là-dedans, mais ça signifie essentiellement que nous utilisons la spécificité comme ligne directrice pour la sélection des exercices, la sélection des zones d'intensité et la sélection du volume pour un athlète et par rapport à un sport en particulier, afin que les adaptations qu'on a grâce à l'entraînement profitent réellement au sport in fine, puisque s'entraîner fort et être bon à l'entraînement, au final, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est de gagner des compétitions et d'avoir des progrès dans notre sport. Donc, quels sont les systèmes que nous entraînons dans un sport? C'est la première question qu'il faut se poser. Donc les systèmes moins spécifiques, l'entraînement plus général que nous faisons en début d'un cycle d'entraînement par exemple, sont eux aussi guidés par la spécificité. Donc on aura la force générale, la flexibilité, la mobilité, la coordination de base. Et bien que tous ces domaines-là, bien qu'ils soient généraux, ils doivent être le plus spécifiques possible pour voir leurs adaptations et avoir un impact positif sur le résultat sportif. Ensuite, on a l'entraînement technique, doit aussi se traduire dans l'amélioration des mouvements sportifs. Et puis enfin, la pratique du sport lui-même avec des intensités maximales dans un environnement compétitif, c'est là où on aura le plus de spécificité. Donc parlons, pour illustrer cet épisode, de la spécificité pour les sports de force et de puissance. Donc quels sont les systèmes sous-jacents que nous entraînons dans ces sports de force et de puissance, comme par exemple l'haltérophilie, des sprinteurs ou le BMX par exemple. Donc nous allons d'abord travailler avec les exercices les moins spécifiques et les plus généraux. De façon générale, ils ont une corrélation plus faible avec le résultat réel, mais tombent toujours sous le couvert d'un entraînement spécifique quand même. Donc là, par exemple, illustration, la force avec des exercices généraux similaires au sport. Donc faire des squats, augmenter la force des jambes, augmenter la force du dos, utiliser des exercices de soulevé de terre ou de traction, ou de tirage, augmenter la force des muscles des épaules et du haut du corps, ou encore des exercices d'explosivité, de prise de masse musculaire si besoin, de pliométrie ou des capacités motrices et d'agilité générale pour être fit, augmenter la capacité de travail, donc faire plus d'hypertrophie, plus du volume. Ces exercices ne sont pas nécessairement directement liés au sport. Un squat, c'est pas un sprint, c'est pas une course du BMX, c'est pas un arraché à l'haltérophilie, mais ils doivent toujours solliciter des angles et des mouvements spécifiques au sport. Ce qui doit être évité ici, c'est un entraînement si général qu'il n'a aucun impact ou même nuira au résultat du sport. Ça pourrait donc inclure des choses comme la course à pied de longue distance pour un sprinter, ça ne servira à rien. Des niveaux élevés d'entraînement en endurance pour un sprinter, là encore, ça ne servira à rien, et inversement. Et un travail de musculation excessif, au final, on n'est pas des bodybuilders, ce qu'on veut, c'est la performance athlétique dans notre sport. Ensuite, on va avoir les exercices de compétition à proprement parler. Donc, développer les compétences techniques et développer la force spécifiquement à un mouvement du sport et à un mouvement de compétition. Donc, nous utiliserons des exercices d'entraînement plus spécifiques qui imitent les mouvements compétitifs ou imitent des parties du mouvement compétitif. Ces exercices restent moins spécifiques que l'exercice de compétition lui-même, mais ils ont une bien plus forte corrélation que les exercices généraux. Ils sont étroitement liés aux mouvements de compétition, mais ne sont pas de nature identique. Donc on pourrait imaginer pour un sprinter aux 100 mètres qui fait des accélérations sur 50 mètres, pour un haltérophile qui fait des séries de 2 ou 3 par exemple, c'est un exercice de compétition, mais ça ne mimique pas un exercice de compétition à proprement parler, puisqu'un exercice de compétition à proprement parler, c'est une intensité maximale une fois. Et finalement, la troisième type, c'est améliorer donc l'exécution technique réelle de l'exercice de compétition lui-même. Donc là, il s'agit du système de spécificité le plus élevé, le mouvement de compétition lui-même réalisé à une intensité maximale et dans un environnement de compétition. Donc finalement, en fait, dans ce que nous recherchons avec la spécificité, c'est l'adaptation dirigée. Donc l'adaptation dirigée, ce qui est important, c'est que les exercices et les méthodes utilisées produisent les adaptations souhaitées pour améliorer les performances en compétition. Donc choisir des exercices trop éloignés du sport est contraire au principe de spécificité. On recherche toujours des exercices qui sont étroitement liés au sport lorsqu'on parle de ce principe de spécificité. Donc, quels seraient les principes de l'application correcte de ce principe de spécificité dans un processus d'entraînement? Donc généralement, on va faire des exercices dans l'entraînement qui vont du moins spécifique au plus spécifique à l'approche d'une compétition. Nous allons diminuer le volume le moins spécifique à l'approche d'une compétition et nous allons remplacer ce volume par une augmentation des exercices les plus spécifiques qui ont une adaptation bien plus bénéfique à notre pic de forme sportive pour une compétition. Ensuite, il est nécessaire de rester dans le domaine de la pratique technique, même pendant les phases d'entraînement général, car la technique des exercices est très critique pour la réussite de l'athlète. Plus le niveau d'expérience de l'athlète est bas, au plus il a besoin de temps pour améliorer sa technique et au plus les exercices spécifiques sont élevés. Ensuite, différents exercices et différents moyens sont souhaitables à différentes phases du processus d'entraînement. Donc les exercices qui sont les moins spécifiques dans les premières phases d'un cycle de l'entraînement sont bénéfiques dans la mesure où ils produisent certaines des adaptations que nous recherchons. Par exemple, le squat à répétition élevée ne peut pas être directement corrélé avec la performance dans le sport, disons par exemple le rugby ou le judo, mais il peut être bénéfique qu'une augmentation de la taille musculaire, une augmentation de la force musculaire, ainsi qu'une capacité de travail supplémentaire profiteront à l'athlète dans les phases suivantes de son entraînement, où il pourra s'entraîner plus dur, plus longtemps et de façon plus efficace. La spécificité ne se limite pas à l'exercice, mais il est également affecté par la charge. Donc les exercices qui sont très similaires au sport réel effectués avec des intensités trop légères et une fréquence très élevé ne sera pas très spécifique parce que l'intensité réelle n'imite pas la compétition. Donc par exemple, pour un haltérophile, faire des arrachés à 50% d'intensité est moins spécifique que faire un arraché à 90%. Néanmoins, ces exercices pourraient être utiles car ils nous permettent de parfaire la coordination de base des exercices techniques tout en maintenant un volume d'entraînement très élevé en début de cycle d'entraînement. Donc ils nous permettent de faire beaucoup plus de volume en fait. Et quand nous faisons des exercices plus généraux, moins spécifiques, cela s'accompagne généralement de plus de volume. Et c'est pour ça qu'on travaille plus sur la coordination de base, les qualités physiques fondamentales en début de cycle, et qu'on va ensuite vers plus de spécificité à la fin d'un cycle d'entraînement proche de la compétition. Les athlètes peuvent mieux tolérer ce type d'exercice car ils sont plus simples et la fatigue accumulée par le volume d'entraînement général nous empêchera de faire des exercices plus spécifiques et trop intenses. Donc l'utilisation des variations peut aider à renforcer une musculature spécifique. Et enfin, au plus proche d'une compétition, le développement de la technique sera le plus important et les qualités du système nerveux ainsi que l'atteinte d'un pic de forme est l'objectif principal. Donc, cela ne peut être fait qu'avec des exercices de compétition et des variations extrêmement proches de l'exercice de compétition. Les charges et l'intensité doivent imiter ce que nous aurons en compétition, donc essentiellement des intensités maximales, voire quasi maximales. Et il est essentiel que l'intensité imite la même intensité que nous aurons en compétition, et ensuite réduire le volume d'entraînement pour réduire la fatigue. Donc une surapplication de ce principe de spécificité, donc une application abusive de ce principe-là, signifierait un manque de variété dans l'entraînement. Faire simplement l'exercice de compétition à une intensité maximale, à l'exclusion de toutes les autres modalités d'entraînement, est une erreur. Cela peut créer une situation où il n'y a plus de fondement, de base dans les capacités générales sur laquelle améliorer les, enfin, on n'a pas de point de départ sur lequel améliorer les résultats. Donc, on ne peut pas faire plus de volume puisque l'intensité est déjà maximale et on ne peut pas augmenter l'intensité puisque l'intensité est déjà maximale aussi. Donc, bien que les qualités générales n'aient pas nécessairement une relation directe avec la performance lors de la compétition, elles ont une relation indirecte et en ce sens qu'un athlète qui est plus fort, plus mobile, plus explosif, qui a une meilleure coordination, sera en mesure de mieux performer et de tolérer un entraînement plus adéquat pour son sport. À l'inverse, une sous-application de ce principe de la spécificité, ce serait également une erreur dans la mesure où un entraînement trop éloigné des exercices de compétition pendant trop longtemps ou comportant trop de volume ne produira pas une adaptation dirigée suffisamment élevée. passer trop de temps à faire des choses comme des exercices de musculation n'aura pas de résultat direct, à moins que votre sport ce soit la musculation. Cela n'améliorera pas les résultats de la forme sportive. Il en va de même pour les intensités d'entraînement. Un entraînement avec une intensité trop faible pendant trop longtemps empêchera l'athlète de faire des adaptations dirigées pour envoyer des performances lourdes en compétition. S'il ne s'entraîne pas avec des intensités presque maximales et maximales avant la compétition, il n'aura pas l'adaptation avant la compétition pour pouvoir. En fait, si on ne s'entraîne pas pour faire ce sur quoi on veut performer, on ne deviendra pas bon à cet objectif-là. Voilà, j'espère que vous avez aimé la suite de cet épisode sur la science derrière l'entraînement avec le principe de spécificité. Vous pouvez retrouver l'article qui résume ce podcast sur le blog de theperfclub.com. Merci et à bientôt.